Bonjour Pierre Canet.
Bonjour.
La conférence internationale sur le climat, la COP26, s'ouvre dimanche à Glasgow en Écosse. Vous y serez. Est-ce que c'est la COP de la grande déprime ?
C'est la COP du rattrapage. Un rattrapage dont on a vraiment besoin, car si l'on regarde aujourd'hui les engagements des pays, ils ne sont pas au rendez-vous de l'accord de Paris. Alors il va falloir rattraper ce retard pris dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce rattrapage aussi, suite au retard pris dans le financement de l'action climatique, eh bien, nous ne sommes pas au rendez-vous des 100 milliards. Alors parce que nous ne sommes pas au rendez-vous, que les pays, les décideurs, les chefs d'État et de gouvernement doivent maintenant rattraper le retard. C'est vraiment l'objet de cette COP26 à Glasgow.
Je suis très inquiet parce que ça peut se passer très mal, dit l'organisateur britannique du sommet, le Premier ministre Boris Johnson. Quand ça commence comme ça, est-ce qu'on peut encore être optimiste, Pierre Canet ?
La question, c'est pas d'être optimiste, mais plus engagé. Engagé, chacun à sa place. Nous, en tant qu'ONG, on va pousser, proposer des choses, s'assurer aussi que chaque chef d'État qui prendra la parole, alors pour nous, Emmanuel Macron, soit redevable par rapport aux discours, par rapport aux actions, face à l'accord de Paris et ce défi du siècle, celui de contenir le dérèglement climatique nettement en dessous de 2 degrés. Nous visons, nous, 1,5 degrés Celsius. Et donc, cette COP, inquiet ou pas, il va falloir s'engager et nous allons pousser le chef de l'État Emmanuel Macron à le faire avec, nous l'espérons, de nouvelles annonces.
Alors, vous y faisiez allusion, le programme des Nations Unies pour l'environnement nous disait il y a 2 jours que les engagements des réductions d'émissions de gaz à effet de serre sont insuffisants, qu'il faudrait être 7 fois plus ambitieux. Comment peut-on être 7 fois plus ambitieux ? Comment est-ce que les dirigeants vont s'y prendre ?
Comment les dirigeants vont s'y prendre ? Il leur faudrait peut-être lire un peu plus les rapports du GIEC, les rapports de l'Agence internationale de l'énergie, s'appuyer davantage sur les collectivités qui d'ores et déjà ont pris un engagement 100% énergie renouvelable, s'appuyer aussi sur des entreprises qui ont décidé, par exemple, de renouveler leur flotte vers des flottes de véhicules électriques plutôt que de tourner au diesel, alors même que nous avons des solutions. Les solutions existent et donc, il est peut-être temps pour ces décideurs d'arrêter de faire du en même temps, de composer avec le temps et de regarder sur la décennie comment accélérer les solutions. Accélérer les solutions, je le disais, c'est protéger la forêt à l'autre bout du monde et s'assurer que les commodités, les importations de soja, à travers par exemple une législation européenne ambitieuse contre la déforestation, puissent être décidées et arrêtées. C'est faire en sorte qu'en France aussi, on arrête ce désastre d'alourdir notre parc automobile en, d'un côté, électrifiant l'automobile et les constructeurs s'y sont engagés, et puis alourdir les véhicules qui, de plus en plus, prennent du poids et donc consomment de l'énergie. Donc, c'est vrai qu'on est un petit peu à un moment de schizophrénie où, finalement, les solutions sont là, et puis ça procrastine, on prend du temps, on n'arrive pas à avancer. Alors,
et qu'est-ce qu'on a fait depuis la COP21, puisque vous parlez de COP de rattrapage pour celle qui est là ? On n'a rien fait depuis l'accord de Paris ?
Depuis l'accord de Paris, il y a eu cette ratification de l'accord de Paris. Donc, il y a effectivement dans beaucoup de pays qui ont signé le fait que cet accord de Paris soit bel et bien réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accord de Paris, il a résisté avec, pourtant, on le sait aux États-Unis, on le sait aussi avec la crise Covid, des risques de déstabilisation de cet accord de Paris. L'accord de Paris est donc vivant. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Il s'est passé quoi dans le même temps aussi ? Une crise sans précédent, cette crise sanitaire de la Covid. Et qu'est-ce qu'on voit lors de cette crise Covid ? Des milliers de milliards qui sont injectés dans l'économie.
Oui, c'est ça. On a injecté des milliards dans l'économie pour la relancer, relancer les économies. Et on n'a pas forcément fléché, comme on dit, on n'a pas forcément fait de l'économie verte.
Pire, moins 20% des financements vont contribuer à la transition écologique. Alors que ça doit être la priorité absolue de tous les gouvernements. Donc effectivement, sur ce point, il y a la question de se dire à cette COP26... Est-ce que les chefs d'État qui prendront et de gouvernement la parole auront l'honnêteté de se dire qu'ils ne sont pas au rendez-vous ? Est-ce que face à ce constat d'échec, ils mettront sur la table de nouveaux engagements ? Nous poussons, nous, WWF, la sortie des aides publiques dommageables à la nature et au climat. S'assurer que toutes les aides mobilisées par les gouvernements, les niches fiscales par exemple, ou même encore les incitations, les garanties publiques à l'export, que l'ensemble de ces aides publiques soient fléchées vers l'action climatique.
Vous l'avez chiffré, ça, les aides nuisibles à l'environnement, en quelque sorte, si on résume ?
Oui, au niveau mondial, c'est de l'ordre de 500 milliards. Au niveau de la France, on a compté 25 milliards. 25 milliards qui, en 2022, contreviennent au climat et à la nature.
De quelles aides vous parlez en l'espèce, là ?
Je pense, par exemple, à des aides sur le foncier. Aujourd'hui, 1 milliard d'aides possible, mobiliser pour appuyer et encourager les gens à construire des logements. Construire des logements dans des zones, la plupart du temps, qui sont soit des terres agricoles, soit des terres qui permettraient à la biodiversité d'être restaurée et développée. Donc on est dans un non-sens total de voir le budget 2022 aujourd'hui avec des aides comme celle-ci sur l'aménagement qui contreviennent à la biodiversité et au climat.
Vous nous dites qu'il y a des choses à faire, que l'on fait des choses, mais la transition écologique, elle exige des efforts. On parle même de sacrifices. Est-ce que c'est là que ça bloque ? Aussi bien pour les États que pour les particuliers et les citoyens.
Cette transition écologique, elle nécessite du courage. Un certain courage politique qui voudrait effectivement d'organiser les choses avec les salariés, avec les entreprises, avec les territoires. Et donc elle nécessite du temps, du dialogue et de la méthode. De la méthode pour organiser ces prochaines années en chiffrant les objectifs, en y raccrochant les actions et en faisant en sorte que les rôles soient bel et bien définis. Et c'est là où le en même temps n'est pas forcément possible.
On a compris que le en même temps macronien n'était pas possible d'après vous.
Ou d'autres pays. Hein,
oui, mais enfin le en même temps, c'est un marqueur voilà. Du macronisme à la française. Hein.
Donc il faut aller clairement, effectivement, dans la sortie des énergies fossiles. Et ça, ça s'organise parce que il a fallu plus d'un siècle pour organiser notre industrie. Et là, il va nous falloir 10 ans pour revoir complètement nos infrastructures. Donc, ça s'organise, ça se précise, avec les territoires aussi. Le WWF l'a fait, par exemple, à Rouen-Normandie, avec une COP locale. On met autour de la table des acteurs pour la méthanisation, pour les énergies renouvelables, pour rénover les logements, avec des moyens en face, avec une mobilisation des politiques publiques. Et donc, ce travail, aujourd'hui, n'est pas organisé parce qu'on cherche à composer avec les forces du présent plutôt que de mobiliser les acteurs du présent pour organiser l'avenir.
C'est des efforts très compliqués hein, que vous demandez quand même. Pierre Canet, qu'est-ce qui vous fera dire à l'issue de cette COP 26 à Glasgow que c'est peut-être un succès ?
Un succès, ça serait celui de nouveaux engagements pris par les États.
Oui, mais vous avez vu ce qu'ont devenus les engagements de l'accord de Paris.
Un succès, par exemple, sur les subventions, les aides publiques dommageables au climat et à la nature que j'évoquais tout à l'heure. De voir des États s'engager, le président de la République Emmanuel Macron, aux côtés de Boris Johnson, aux côtés de Trudeau, pour dire, nous, États développés, nous nous engageons à sortir nos soutiens aux énergies fossiles. Ils l'ont fait dans le cadre du G20, ça n'a pas été mis en place il y a depuis 10 ans, du coup, des États qui restent sur place par rapport à ces subventions. À la COP26, si ces États, ces chefs d'État s'engagent concrètement à dire « nous sortons nos soutiens aux énergies fossiles avec un calendrier qui soit resserré à l'échéance 2025 », ok, on pourrait là estimer que c'est un pas en avant.
Un pas en avant, un succès peut-être. Merci à vous Pierre Canet d'être venu ce matin. Bon voyage à Glasgow, bon courage pour ces heures de discussion et de rencontres.
Merci.